Bonne fin de journée à vous, bonne fin d'après-midi, bonne fin de mercredi, il est 18h. 18h, France Bleu Paris, les infos, Alice Cachaner, info ce soir en Ile-de-France et ce procès pour discrimination raciale.
Deux responsables d'une agence immobilière de Palaiseau sont jugés en ce moment. Ils sont soupçonnés d'avoir systématiquement écarté certains dossiers en fonction de la couleur de peau des clients. On se rend direct du tribunal d'Evry où a lieu le procès. 36 heures après l'incendie qui a ravagé un immeuble du 16e arrondissement, les riverains sont encore sous le choc. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans portable. Entre les mails du boulot et les applications, pas sûr que les Parisiens arrivent à décrocher. À la fin de ce journal, on filera à Lyon où le PSG joue contre Villefranche en Beaujolais, un club de 3e division.
Je ne sais pas quelle température il va faire à Lyon ce soir et cette nuit, mais sur la région parisienne, un peu de pluie et 6 à 7 degrés. Les infos, France Bleu Paris, Alice Cachaner, ils ne voulaient louer leurs appartements qu'à des Blancs.
Oui, vous avez bien entendu, Franck. Deux responsables d'une agence immobilière de Palaiseau, un père et son fils, sont jugés en ce moment au tribunal d'Evry pour discrimination raciale. Les faits remontent à 2006, mais la défense les conteste. Laetitia Evelyne, bonsoir.
Bonsoir.
Selon l'avocat des prévenus dans ce dossier, il n'est pas question de discrimination. Tout serait lié à l'arrivée d'une nouvelle employée commerciale.
Exactement. Avant elle, il n'y avait pas de problème. Après elle, il n'y en a plus jamais eu. C'est cette employée, Patricia, qui la première a fait un signalement à SOS Racisme. C'est elle qui a filmé son patron à son insu, qui lui confirmait qu'il ne voulait pas de noir, pas de jaune, pas d'arabe. Et ce serait donc, selon le père et le fils, cette employée, une incompétente dont tous les dossiers étaient refusés. Employée qui a d'ailleurs été licenciée, qui n'a jamais pu retrouver de travail depuis.
En revanche, selon les associations qui sont présentes, les faits de discrimination sont bien avérés, Laetitia.
Oui, d'ailleurs, l'audience est tendue. Les parties civiles auraient aimé que les prévenus reconnaissent les faits. Les victimes ont pu s'exprimer, expliquer leurs déceptions, leurs incompréhensions. Vous êtes qui pour nous reléguer au second rang à cause de notre couleur de peau? C'est même énervé Aïssata. Ma maman a la peau plus blanche que vous. Vous ne savez pas le mal que vous m'avez fait. Vous devriez avoir honte. Cette ancienne secrétaire de direction qui s'est rassise en larmes. Une autre victime, Sylvie, et son compagnon Salissou, eux aussi se disent discriminés. On nous a menti, on nous a dit que la maison que l'on devait avoir était louée. On a fait appeler des collègues. Pour eux, bizarrement, c'était libre. Je veux que ces hommes soient condamnés, martèle Sylvie. Nos enfants sont métis et je veux qu'ils ne connaissent jamais ça.
Laetitia Evelyne en direct du tribunal d'Evry. Et puis les deux prévenus encourent jusqu'à 3 ans de prison.
36 heures après l'incendie de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris, le quartier est encore sous le choc.
Le feu a fait au moins 10 morts et une trentaine de blessés, dont un grave. C'est l'incendie le plus meurtrier dans la capitale depuis 2005. La mairie du 16e arrondissement accueille les témoins et les victimes. On écoute le reportage de Jérôme Jadot.
Jean-Jacques habite au 6e étage de l'immeuble situé juste en face de celui qui a brûlé. Les yeux cernés, la main tremblante, il est venu s'enquérir en vain du sort de ses voisins.
Des personnes qui étaient sur une rambarde de l'immeuble qui me criaient à l'aide en me demandant de mettre une passerelle entre mon balcon et l'immeuble en flammes. Et la police a dit c'est impossible, c'est trop risqué, je n'ai pas de nouvelles et je souhaite vivement en avoir pour mon moral.
Parmi ceux qui défilent ici, certains ont de gros sacs à la main remplis de vêtements pour les victimes. Lamia est venue donner quelques-uns de ses pulls.
On ne peut pas rester inerte devant une situation pareille. Ces gens-là se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Ça fait 24 heures que franchement j'y réfléchis, j'en dors pas quoi. Je suis vraiment choquée par les images que j'ai vues.
Solidarité aussi pour l'hébergement des sinistrés. Des riverains ont proposé d'en accueillir. Pour le plus long terme, Jacques-Frédéric Sauvage, adjoint au maire du 16e en charge du logement, tente d'apporter des réponses.
Hier, il y avait déjà une dizaine de personnes qui se sont inscrites. On attend de savoir quels sont les gens qui demandent à être logés. Ça peut aller jusqu'à 90. On ne peut pas garantir qu'on pourra reloger tout le monde, mais tout ce qu'on pourra faire, on essaiera de le faire.
Logé provisoirement à l'hôtel, un habitant de longue date de l'immeuble sinistré quitte la mairie en lâchant « C'est toute ma vie qui part ».
Et la principale suspecte de cet incendie, une femme de 41 ans, a passé la nuit en infirmerie psychiatrique. Le procureur de la République, Rémi Hetz, devrait apporter plus de précisions sur les conditions de ce drame. Une conférence de presse a lieu dans une demi-heure au Palais de justice de Paris. Un soutien inattendu pour le Parti communiste aux élections européennes, celui de Lassana Bathily, l'homme qui a caché des otages lors de l'attaque de l'hypercachère en 2015. Il présidera le comité de soutien du PCF. Pour la tête de liste Yann Brossa, la personnalité et le parcours de Lassana Bathily portent un message d'espoir. Ils ouvrent et ferment certaines gares de banlieue parisienne, mais ne sont pas des salariés de la SNCF. Depuis quelques mois, des employés des points de vente relais, c'est là où vous pouvez acheter vos journaux, donnent un coup de main dans les gares de Lagny-Torigny et Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. Le syndicat Sudrail dénonce une politique d'externalisation et de sous-traitance. La SNCF parle, elle, d'une simple expérimentation. Franck,
oui.
Êtes-vous capable de vous passer de votre téléphone ?
Ça m'arrive des fois, mais pas. Oui, j'essaye, mais pas souvent. Pas souvent, voilà.
Eh bien, la plupart des Français n'y arrivent pas. Et ce soir, c'est l'occasion. Pardon, aujourd'hui, c'est l'occasion d'essayer avec la journée mondiale sans portable. Entre les mails, les résultats de foot et
pas
les applications,
facile.
C'est pas toujours facile de se défaire de nos smartphones. Les Parisiens ont-ils relevé le défi ? Marion Gauthier est allée à leur rencontre.
Difficile déjà de trouver des Parisiens sans leur téléphone à la main, comme le déplore Michel.
Les gens sont devenus tellement accros de leur portable qu'ils ne regardent plus s'il y a des gens qui arrivent en face d'eux, s'il y a un trou dans le sol, etc.
Binta fait partie de ces accros au portable. Elle a déjà dû s'en passer, mais bien malgré elle.
Pendant la période du bac, mon téléphone il m'a lâché et du coup j'avais plus de téléphone, j'étais au bout de ma vie. Et sinon je pense que je passe au moins un bout de 5 heures, 4 heures... En plus avec Netflix, les applications.
De son côté, Loudia est mère de famille et son avis tient en un seul mot.
Inenvisageable. C'est une deuxième identité, c'est comme avoir ses clés sur soi. Il nous manque quelque chose si nous n'avons pas le téléphone.
Si ce ne sont pas les enfants, c'est le travail qui empêche de déconnecter. Pour Johan, regrettable mais impossible de la faire, cette journée sans téléphone.
Aujourd'hui, ce sera sans moi malheureusement. Mais je fais plein d'autres journées sans plein de choses, mais, mais pas le portable.
Pas le portable, no mobile phone en anglais. L'expression a récemment fait naître le terme nomophobie, soit la peur d'être privé de téléphone.
Nomophobie, donc voilà un tout nouveau
un mot
que vous avez peut-être appris aujourd'hui grâce à France Bleu Paris. Vous allez aussi apprendre bien sûr ce qui se passe du côté de Lyon, parce que nous parlons football maintenant avec Villefranche PSG, c'est la Coupe de France.
La rencontre avec les petits poussets de Villefranche en Beaujolais commence dans 30 minutes à peine au Groupama Stadium, c'est-à-dire la même où les Parisiens ont été battus il y a 3 jours par l'OL. Ce soir, 2 divisions séparent les 2 clubs. Bruno Salomon, vous êtes sur place. Est-ce que l'entraîneur du PSG, Thomas Tourelle, a fait des changements dans son équipe ?
À 5, très exactement, pour cette rencontre des 8e de finale de Coupe de France. Exit Kylian Mbappé ou encore Edinson Cavani qui sont sur le banc ce soir. On va retrouver une composition d'équipe avec Alphonse Areola dans la cage, Thilo Kehrer et Marquinhos en défense centrale. Thomas Meunier pour le couloir droit, le retour du Belge aux affaires. Juan Bernat, couloir gauche. Enfin, Leandro Paredes, la nouvelle recrue qui va faire son premier match en tant que titulaire. Christopher Nkunku et Julian Draxler sont au milieu de terrain et enfin en attaque Moussa Diaby, Angel Di Maria et Eric Maxime Choupo-Moting. Alors par rapport à l'ambiance que l'on a pu avoir la semaine dernière dans ce stade et dans ce Groupama Stadium, il n'y a quasiment personne. Mais pourquoi ? Parce que déjà, on est en configuration 20 000 places dans le Groupama Stadium, alors que normalement, c'est un stade de 60 000 places. Et surtout, il y a d'énormes embouteillages autour du stade. Les gens s'y sont pris trop tard pour venir. On n'est même pas sûr de voir un stade avec des gradins remplis avant le coup d'envoi, ce qui est prévu dans maintenant une petite vingtaine de minutes, ce qui est assez étrange.
Bruno Salomon en direct du Groupama Stadium, donc pas vraiment plein pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ce match, bien sûr, est à suivre en direct sur France Bleu Paris avec les commentaires de vous, Bruno, et d'Eric Rabessandratana et Miguel Derenne.
Tout à l'heure, dès 18h30, coup d'envoi, match en direct et en intégralité.